On va terminer une série que j'ai commencée il y a quelques mois passés. Ouais. Quelle est l'attitude de Dieu à notre égard? Est-ce que vous avez été là? Vous avez entendu quelqu'un de nos enseignements? Nous avons parlé de l'attitude de Dieu envers le riche. Ouais. Et nous avons regardé l'histoire de Zachée. Nous avons regardé l'attitude de Dieu envers une femme totalement dépourvue et malade. Ouais. La femme avec une perte de sang. Nous avons regardé l'attitude de Dieu à travers Jésus. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Oui, envers les enfants. Amen. Donc, je pense qu'on va terminer aujourd'hui. J'hésite toujours parce que je ne sais pas si vous le savez, mais je suis pasteur de cette église, mais ce n'est pas moi qui dirige l'église. Amen. Non, ce n'est pas un conseil d'administration, ce n'est pas un homme d'affaires très riche qui dirige notre église. C'est le Seigneur qui dirige l'église. Et je me suis engagé avec le Seigneur, oui, de l'obéir et de le suivre. Donc, je fais toujours attention quand je dis on va terminer quelque chose, parce que quelquefois après il dit j'ai encore que tu veux que tu dises quelque chose. Donc d'accord, pour moi, au moins pour l'instant, ça va être la fin de cette série, mais je veux que vous sachiez, j'obéis à Dieu. Pourquoi je vois tellement de bénédictions dans ma vie? Une verset qui nous a beaucoup interpellé depuis des années maintenant, Laura et moi, c'est Isaïe 1:19 qui dit, oui, si tu es obéissant et de bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Voilà. Donc, j'ai un verset pour nous. Aujourd'hui, on va parler d'un domaine un petit peu différent. Oui, je vous donne le verset. Après, on va faire notre bonne déclaration. En Luc 15, 7, il dit, de même, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. On va vraiment toucher le cœur de Dieu ce matin. Oui. Hallelujah. Et j'espère que ça va toucher nos cœurs. Chaque fois qu'on a regardé l'attitude de Dieu, on s'est tourné vers nous-mêmes et on a dit, mais quelle est mon attitude? C'est bon de savoir que Dieu aime les riches, que Dieu aime les pauvres et les malades, que Dieu aime les enfants, mais il faut, en tant qu'enfant de Dieu, que nous suivons notre Père. Vous êtes d'accord? Donc, une bonne déclaration, vous voulez lever la Bible, vous pouvez répéter après moi. Dis ceci, voici ma Bible. Non, je veux voir les Bibles. Secouez-les. Oh là là, c'est magnifique. Quel pasteur n'est pas béni par ça, de voir son église apporter leur Bible. Dis, voici ma Bible. La foi vient de ce que j'entends et je décide d'entendre la parole de Dieu. Je donne libre cours à l'Esprit de Dieu. Car là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Je demande à Dieu de me remplir de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Je ne suis pas un auditeur oublieux, mais je mets la parole en pratique. Et je suis heureux dans mon activité. Je crois que je reçois. Au nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Gloire à Dieu. Donc, on va terminer donc notre étude sur l'attitude de Dieu envers nous. Comme je dis à plusieurs reprises, et je me répète, ouais, volontairement, Dieu n'est pas en colère avec l'homme qu'il a créé. Ouais. Et nous avons dit, cette année, Dieu nous a dit, vous êtes la prunelle de ses yeux. Est-ce que vous pouvez regarder quelqu'un et dire, vous êtes la prunelle de ses yeux? Hallelujah. Ok, reprenons ce verset. Et peut-être ça va vous aider, peut-être comprendre un petit peu. Parce que certaines personnes ont été choquées en venant dans l'église en disant, mais pasteur, on a l'impression que tu délaisses les anciens et que tu t'intéresses surtout aux nouveaux. Je dis, exactement. Et je veux que vous soyez pareil. Ouais. Pas que nous ignorons, pas que nous ne voulons pas passer du temps avec ceux qui sont là depuis longtemps, mais vous savez, vous pouvez nous inviter, nous pouvons vous inviter, nous pouvons faire les choses. Il y a tout le temps nécessaire. Mais quand quelqu'un franchit la porte de notre église, quand il y a une nouvelle personne, ils doivent être notre premier intérêt. Je relis Luc 15, 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repente que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Je crois que j'ai des hommes et des femmes justes devant moi. Je crois que vous avez donné votre vie à Jésus, qu'il a lavé votre cœur, et aujourd'hui vous pouvez vous tenir devant Dieu et dire, je suis juste, justifié par le sang précieux de Jésus. Est-ce vrai? Vous pouvez le dire? Oui, nous ne sommes pas des pauvres pécheurs. Nous sommes des riches enfants de Dieu, sauvés par sa grâce, et nous marchons dans cette justice aujourd'hui. Mais il y a une multitude de gens qui sont aujourd'hui pécheurs exactement comme nous étions. Ce n'est pas pour vous, mais j'ignorais que j'étais pécheur. Personne ne me l'avait dit. Je ne suis jamais allé à l'église. Je n'avais jamais lu ma Bible comme ça. J'ignorais. J'ai cru un pécheur. C'était quelqu'un qui braquait une banque, qui tuait les gens, tu vois, des grands bandits. Pour moi, c'était des pécheurs et je n'étais pas. J'étais un jeune adolescent quand j'ai entendu l'évangile pour la première fois. Mais je veux que vraiment on capte le cœur de Dieu aujourd'hui. Il y a plus de joie quand un seul pécheur se répand que nous ici aujourd'hui. Et vous savez combien Dieu est heureux de voir ses enfants venir le dimanche dans sa maison? Il est ravi de nous avoir. Il est ravi d'entendre notre louange. N'est-ce pas? Mais nous sommes sauvés. Et il y a des gens qui ont besoin d'être sauvés. Amen. L'essentiel de l'évangile, c'est quoi? Dieu désire une relation intime et personnelle avec vous. Amen. Il veut être votre père et vous, ses enfants. Je répète, Dieu désire une relation intime et personnelle avec vous. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père, Jean 14, 9. Jésus a dit en Jean 6, 37, 38, tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ça, c'est quelque chose de très, très important. J'ai entendu les gens qui ont dit, mais j'ai fait trop de mal. Dieu ne m'accepterait pas. Ouais. Il dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et je vous répète encore, si vous ignorez comment est Dieu le Père, regardez à Jésus dans les évangiles. Amen. Attachez-vous à ce livre, parce que ce livre vous parle de Dieu. Ce livre vous dit quelle est la volonté de Dieu. Ce livre est rempli de ses promesses, ce qu'il désire faire dans votre vie. Amen. Hallelujah. La Bible nous révèle la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qu'on remarque en lisant les Écritures? Moi, j'ai pris l'habitude maintenant de lire au moins un chapitre d'un évangile tous les jours. Et je parcours Matthieu, après Marc, après Luc, après Jean, et après je reprends. Amen. Je lis d'autres choses, mais j'ai trouvé que c'est formidable de voir Jésus chaque jour et de voir comment il rencontre les gens. Ouais? Interagit avec les gens. Jésus traitait les hommes et les femmes, mesdames, vous devez, mesdemoiselles, vous devez vous réjouir. Parce que Jésus a traité les hommes et les femmes avec respect. Il a honoré les aînés, j'allais dire les vieux, excusez-moi. J'ai appris seulement de vous. Les aînés et les jeunes et les enfants, il les traite avec respect et nous devons agir pareillement. Amen. Jésus s'intéresse à vous et à moi. Luc 5, 31-32, le verset très important. Jésus prenant la parole leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Est-ce que ça veut dire que je n'ai plus besoin de me repentir parce que je suis juste? Non, si je pêche, je confesse mon péché et je me repens. Amen. Mais ce n'est pas la chose la plus importante, ce que je fais la plupart du temps. J'ai besoin maintenant de marcher dans ma justice, de marcher droit avec Dieu, n'est-ce pas? Mais Jésus est venu appeler des pécheurs à la repentance. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. S'il vous plaît, n'essayez pas de convaincre les gens du péché. J'ai vu beaucoup de chrétiens essayer de faire ça. Convaincre les gens que c'est magnifique marche avec Dieu. Convaincre les gens que Dieu répond à nos prières. Convaincre les gens qu'il y a une place pour eux. Amen. Hallelujah. Luc 15, 7. Je répète, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont point besoin de repentance. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Vous avez votre Bible en main? On va tourner en Luc, chapitre 15, et on va lire plusieurs versets. Paul a exhorté Timothée de faire la lecture publique de la parole. Et je pense que c'est une très bonne chose. On va lire Luc 15, 1 à 10 d'abord. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et quelquefois, c'est bon de savoir ce qu'il n'a pas fait. Il ne les a pas renvoyés. Ouais. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il y a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller auprès de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle les amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi quand j'ai trouvé ma brebis. Oui, qui était perdu. De même, je vous le dis, c'est là le contexte maintenant de ce verset, d'accord, qu'on a lu plusieurs fois déjà, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Jonas. Dieu a dit à Jonas d'aller à Ninive et de prêcher la parole. Et Jonas n'a pas voulu aller, il est parti dans l'autre direction. Vous savez pourquoi qu'il est parti dans l'autre direction? C'est parce que les gens de Ninive, c'était leurs ennemis. Mais aussi, ils ne voulaient pas prêcher pour que ces gens se répandent. Hein? Parce qu'ils savaient que ces personnes, ils se perdent dans leur péché. Et ils savaient que s'ils prêchaient, ces gens allaient se repentir. Mais ils n'avaient pas le cœur de Dieu comme nous avons le cœur de Dieu. Ils n'avaient pas Jésus dans son cœur. Est-ce que vous voulez que les gens autour de vous se perdent, aillent en enfer? Même les méchants autour de nous, on veut ça pour personne. On veut qu'ils tendent vers Dieu, qu'ils se répandent, qu'ils changent. Si c'est possible pour vous, si c'est arrivé dans votre vie, c'est possible pour n'importe qui. Vous êtes d'accord? Oui? Oh, hallelujah. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut lire encore? Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume pas une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé le drachme que j'avais perdu. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Donc, je sais pas si on peut imaginer cela, oui, mais ce n'est pas seulement Dieu qui se réjouit quand un homme, une femme tend vers Dieu. Mais toutes les anges du ciel, ça doit faire la fête chaque fois qu'un homme, une femme réalise que Jésus est mort pour lui et qu'il a payé pour ses péchés. Il dit, Jésus, je te veux comme mon Seigneur et mon Sauveur. Il y a une joie. Amen. Ça, c'est l'attitude envers un pécheur. Hein? Quelle est notre attitude envers les gens qui sont dehors, qui ne connaissent pas de tout Dieu? Il y a deux catégories des gens qui doivent nous se réjouir, parce qu'il y a une autre catégorie des gens, c'est les gens qui étaient parmi nous. Les gens que nous avons vus sauver. Les membres de notre famille qui un jour qui ont dit oui à Jésus, mais aujourd'hui, ils sont loin. Ils ont tourné le dos. Quelle est notre attitude envers ces gens? Parce que c'est facile d'avoir des mauvaises attitudes, n'est-ce pas? On est entouré des gens avec des mauvaises attitudes, mais nous avons besoin de prendre l'attitude de Dieu. Donc, je veux qu'on continue à lire. Oui? Parce qu'il parle ici de ce qu'on appelle souvent dans les termes évangéliques, je ne sais pas si je trouve ça dans la Bible, mais on les appelle des rétrogrades. Oui? Est-ce que quelqu'un a trouvé ça dans la Bible? Je pense qu'on a inventé ce nom. Non, on ne va pas l'utiliser. Oui? Si ce n'est pas biblique, moi je dis, je ne pense pas que c'est bon de l'utiliser. Oui? Oui? C'est pourquoi quand les gens disent, mais tu es protestant, je suis désolé, non, je ne suis pas protestant. Donc, peut-être vous dites vous êtes catholique parce que vous êtes né dans une famille catholique, mais moi, je n'étais pas né dans une famille catholique ni protestant. Ouais? Je suis né de nouveau à l'âge de presque 15 ans. Ouais? Mais quand les gens veulent mettre une étiquette sur moi qui n'est pas le mien, je dis, j'ai pas vu ça dans la Bible, ce mot. Ouais? J'ai vu chrétien dans la Bible, donc si vous voulez, vous pouvez m'appeler chrétien. Oui, quelque part, on peut ressembler aux protestants, mais ce n'est pas marqué dans la Bible. Donc, je l'emploie pas. J'emploie pentecôtiste, j'emploie charismatique, j'emploie chrétien. Je trouve chrétien, c'est toujours le mieux. Amen. C'est à Antioche, pour la première fois, on les appelait des chrétiens, ceux qui suivent Jésus-Christ, loin de le même esprit de Dieu. Ouais. OK? J'espère que ça vous aide. On est là en verset 11, donc toujours en Luc 15 et verset 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant été tout ramassé, partit pour un pays éloigné et il dissipa son bien en vivant dans la débauche. C'est très graphique, n'est-ce pas, cette histoire. C'est tellement bien écrit, cette parabole. Lorsqu'il a eu tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoyait dans les champs garder les porceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les porceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, c'est ça qu'on a besoin de prier pour les gens qui ont quitté le Seigneur, qui sont partis de la maison du Seigneur, qui maintenant se trouvent dans les ennuis, qui se rentrent en eux-mêmes, qu'on réalise là où nous sommes arrivés, en rentrant en lui-même, il dit « Combien de mercenaires sont chez mon père ont du pain en abondance et moi je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva. Il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit. Pourquoi il le vit? Parce qu'il attendait. Il faut que nous attendons que les gens reviennent. Amen. Et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le... Qu'est-ce qu'il dit? Baisa. Vous savez quelque chose que vous pouvez faire? Pendant la célébration, pourquoi pas prendre votre téléphone et prendre une photo? Ouais, de la louange, ou de moi en train de prêcher, on voit ça à un de vos frères ou sœurs qui vous n'avez pas vu depuis un moment et dire, nous pensons à vous. Ouais. Pourquoi pas utiliser la technologie? D'écrire un petit texte, peut-être Dieu vous donne une parole, une verset, envoyez ça à quelqu'un. Vous dites, mais j'ai pas vu telle personne depuis 6 mois, j'ai pas vu telle personne depuis 6 ans. C'est super de penser à, mais pourquoi pas prier? Et l'envoyer un petit message, un email, un texte, un petit photo. En disant, viens nous joindre. Peut-être qu'ils attendent que ça. Allô? Le Père, il attendait. C'est pourquoi il l'a vu. Amen. Et il embrasse. Hallelujah. Laisse-moi retrouver le verset où je me suis arrêté. Quelqu'un, aide-moi. 20. Oui. 21. Le Fils lui dit, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. Et il y a beaucoup de chrétiens qui croient cela. Quelle est notre attitude envers eux? Facile de juger les autres, n'est-ce pas? Tellement facile. Mais est-ce que ça les aide? Non. Aimez-les. L'amour couvre une multitude de péchés. Au moins ma Bible dit cela. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé, et il commençait à se réjouir. Voilà l'attitude de Dieu. Oui, pour quelqu'un qui se répand et trouve Dieu pour la première fois, il se réjouit, les anges se réjouissent. Mais quand quelqu'un revient, c'est la fête. Amen. Dieu veut les rétablir. Oui, et les faire avancer dans son royaume. Amen. Or le fils, verset 25, aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qu'il était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulait pas entrer. Attention à l'attitude du grand frère. Attention de cette attitude, ouais. Nous sommes plus justes que les autres. Nous sommes meilleurs que les autres, ouais. Ça, c'est l'esprit des pharisiens. Ils se croyaient toujours meilleurs et ils ont passé à côté. Jésus avait des paroles très, très, dures, directes, ouais. Envers qui? Les prostituées? Les malades? Les riches? Les pécheurs? Non. Envers les religieux. Qui voulaient empêcher les autres d'entrer, qui voulaient mettre sur eux toutes sortes de charges qu'eux-mêmes ils ne pouvaient pas porter. Ce frère aîné avait une attitude que quelquefois on trouve dans l'église. Mais pourquoi tu accueilles ces gens? Ils sont partis, ils n'ont rien fait, ils ont fait ceci et cela. Pourquoi on les accueille? Parce que Dieu le Père les accueille. Amen. Et parce que c'est salutaire. Amen. Et c'est vrai, quelques dimanches matin, je n'arrive pas à dire bonjour à tout le monde et vous savez combien je vous aime. Je suis ravi de vous voir arriver. Je suis ravi de vous voir être fidèle et engagé avec le Seigneur, avancer dans le Seigneur. Mais il y a quelqu'un qui arrive que je n'ai pas vu depuis longtemps. Je vais aller directement vers cette personne d'abord. Amen. Vous comprenez pourquoi? Parce que ça peut être salutaire pour cette personne. Et cette personne, tellement des gens nous ont dit, mais on ne savait pas comment tu allais nous recevoir. On ne savait pas si tu nous avais tourné le dos. Est-ce qu'on a tourné le dos sur les gens? Est-ce qu'on les attend? On croit qu'ils vont revenir? On prie pour eux? Oh, j'espère qu'on a cette bonne attitude. Donc, le Père sortit et le pria, verset 29. Mais il répondit à son père, « Voici à tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et sans jamais jamais transgressé ses ordres. » Que c'est merveilleux de pouvoir dire ça. C'est marcher droit avec Dieu pendant toutes ces années. Le problème avec le frère aîné, c'est son attitude. Parce qu'il ne réalisait pas qu'il pouvait vivre la bénédiction tous les jours avec le Père. Merci beaucoup. Oh Seigneur, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Oh, le Père est méchant. Qui croit cela? Qui croit que nous sommes démunis parce qu'on reste fidèles envers Dieu? Vous croyez qu'on est démunis? On a la joie tous les jours de notre salut, de la paix avec Dieu. Vous imaginez le frère ou la sœur qui quitte le Seigneur, qui repart dans le monde et il ne constate plus cette paix, cette présence du Saint-Esprit, il ne se rappelle plus les promesses de Dieu, combien lui est Dieu pourvu. Mais nous sommes dans la maison du Père. Mais le frère aîné n'a pas compris quelque chose. Il pensait que le Père devait lui apporter, que le Père devait lui donner. Écoute ce que le Père dit. Tu m'as jamais donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Verset 31, peut-être vous avez besoin de souligner ça. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on veut plus que toute autre chose? Vivre dans la présence de Dieu, être avec le Père, il n'y a pas quelque chose de meilleur. Oui? Parce que les choses... Les biens, gloire à Dieu pour les biens, gloire à Dieu pour la prospérité que Dieu nous donne encore et encore, mais il n'y a rien en comparaison à la paix et la joie et l'amour et cette communion intime avec le Père. Il n'y a rien en comparaison, vous êtes d'accord? Amen. Ne mélangeons pas ces choses, oui, mais écoute ce qu'il dit. Tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Le frère aîné aurait pu à n'importe quel jour inviter ses amis et faire la fête. Mais il n'a pas fait. Et donc quand le père le fait parce que son frère qui est perdu, qui est mort, est revenu à la vie, il le fait, il dit, c'est pas juste. Comprends ceci, nous restons fidèles avec Dieu, qui compte rester fidèle envers Dieu? Moi j'ai pris cette décision quand j'ai invité Jésus dans ma vie, je dis je marcherai tous les jours avec le Seigneur. Et quand j'ai partagé quelques semaines passées, j'étais dans un groupe de maison avec des aînés, avec certains qui avaient marché 50 ans avec le Seigneur. Et c'était merveilleux de voir ces gens qui avaient des enfants et des petits-enfants et de voir la bénédiction de Dieu dans leur vie. Et je dis, moi, je veux vivre ça d'ici 50 ans. Amen. Je veux continuer avec Dieu, peu importe ce qui vient. Amen. J'espère que vous avez pris cette même décision. Je m'accroche à Dieu et il me tient. Hallelujah. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Wow! Quelle est notre attitude envers ceux qui sont partis, ceux qui sont retombés dans le péché, ont été piégés peut-être. Qu'est-ce qu'on sait? Qui sommes-nous de juger? Pourquoi ils sont partis? Oui? Moi, je dis, ce qui est important, c'est notre attitude envers eux pour qu'ils puissent revenir, s'être rétablis. Dieu se réjouit quand un pécheur revient. Dieu se réjouit quand un frère ou une sœur qui s'est éloigné revient. Et nous? Encore une dernière parabole. Matthieu 22, versets 1 à 14. Hallelujah. Que c'est merveilleux d'étudier l'attitude de Dieu envers les gens, parce que si nous voyons comment Dieu traite les gens, nous pouvons vérifier notre attitude. Amen. Moi, une chose que j'ai compris, c'est que je ne vais pas changer Dieu parce qu'il est parfait. Amen. Mais je lui laisse me changer parce que je ne suis pas encore parfait. Amen. Donc, si je vois une différence d'attitude entre Dieu et moi, c'est à moi de changer mon attitude. Amen. On appelait les fils de tonnerre, comme on a appelé Jacques et Jean. Quand les gens ont rejeté Jésus, il dit, on va appeler le tonnerre sur eux, comme Élie avait fait. Non, 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 vous n'avez pas compris. Cet esprit par lequel vous êtes animé n'est pas bon. Amen. Qu'est-ce qu'on va appeler? On va appeler la bénédiction de Dieu. Quelqu'un vous maudit, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais les bénir. Première personne, premier groupe de personnes pour qui Jésus enseigne prier, c'est en Matthieu 5, il dit, prie pour ceux qui vous persécutent et qui vous maudissent. On y va? Je vais essayer de lire assez rapidement. Matthieu 22, verset 1. Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Ils vont envoyer encore d'autres serviteurs en disant, dites aux convives, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces, mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils sont à l'air, ceci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent de ses serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les convives n'en étaient pas dignes. L'invitation est donnée à tous, n'est-ce pas? Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblèrent tout ce qui se trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à la table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-le les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres dehors où il aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. John, j'aime pas ce parabole. Peut-être on va l'enlever, d'accord? Vous savez, chaque fois que vous trouvez quelque chose dans la Bible, vous n'aimez pas, on l'enlève. Non? Non, je pense que ça veut dire qu'on a besoin de réfléchir un petit peu plus et on a besoin de demander au Seigneur et peut-être gratter un petit peu plus que la surface. Ouais. Quelquefois, on gratte la surface, on regarde seulement... Quelquefois, il faut creuser pour comprendre. Ouais. Mais Dieu invite tout le monde. Il invite les amis et les amis ne le veulent pas. Ils ne veulent pas venir à la fête. Donc, il y va et invite n'importe qui. Les bons et les mauvais, les méchants. Quelquefois, c'est extraordinaire de voir qui accepte le Seigneur. Ouais. Quelquefois, on a l'impression que les plus méchants acceptent le Seigneur. Gloire à Dieu, il est venu pour les pécheurs. Amen. Quelquefois, les pécheurs, les grands pécheurs savent combien ils ont besoin d'un sauveur, d'un salut. Amen. Mais après, quand il vient, un ne s'habille pas pour les noces. Est-ce que vous êtes déjà allé à un mariage, fêter un mariage? Je suis désolé pour ceux qui aiment les jeans, mais on ne va pas en jean et t-shirt, n'est-ce pas, au mariage? Moi, je donne quelque part, c'est honteux. C'est un manque de respect pour les mariés, n'est-ce pas? On s'habille, même ceux qui ne mettent jamais une cravate et une veste au mariage, ou ils mettent une chemise jolie et une veste, ou une cravate, n'est-ce pas? Et les femmes qui portent rarement, aujourd'hui, c'est dommage, oui, des robes ou les jupes, se mettent en jupe et en robe, n'est-ce pas, pour honorer. Et vous savez qu'on entre dans la festin de Dieu, on se revêt. On se revêt de quoi? De quoi? Pourquoi il y a un qui n'est pas vêtu, tous les autres sont vêtus pour les morts. Ils sont vêtus de quoi? Est-ce que quelqu'un sait? Ils sont revêtus de Christ, de la parole, un vêtement blanc. Ça veut dire qu'on se délaisse notre vie passée. On dit non au monde, on dit non au diable et on dit oui à Jésus. Cet homme est entré dans la fête, mais il n'a pas fait de Jésus son Seigneur. Comprenez? Quelquefois, on a des gens qui viennent dans l'église. Oui, qui ne sont pas encore sauvés. Quelle est notre attitude envers eux? Quelle magnifique opportunité pour cette personne d'être sauvée. Est-ce qu'on va les presser d'être sauvés? Est-ce qu'on va les obliger d'être sauvés? Excusez-moi, vous essayez de me presser, m'obliger vers quoi que ce soit, moi je pars. Une chose que j'ai appris, nous sommes des hommes et des femmes libres. Amen. Et nous avons besoin de permettre cette liberté. Mais comprenez bien, si on ne se revêt pas de Christ, si on ne devient pas chrétien, il n'y a pas de place pour nous dans la grande fête qui va avoir lieu. Amen. Quelle est notre attitude envers les gens de dehors? Quelle est votre attitude envers les gens de dehors? Tournez avec moi. On va terminer ici avec Romains chapitre 10, verset 14. Est-ce qu'on se réjouit quand quelqu'un accepte Christ? Oh là là! On devait faire la fête. Et quand un frère et une sœur revient au Seigneur, on devait faire la fête encore, n'est-ce pas? Oui. En réalité, on devait faire la fête tout le temps. C'est ce que Dieu veut. Il veut que notre vie soit une fête. Qu'on se lève le matin, on fête le fait qu'il y a encore de l'oxygène à respirer, encore de l'eau à boire, encore quelque chose à mettre sur notre assiette, encore un travail auquel on peut aller. N'est-ce pas? Qu'on loue le Seigneur toute la journée. Mais quand quelqu'un rencontre Jésus pour la première fois, oh là là, on devait être dans la joie. Oui? Et quand un frère et une sœur revient au Seigneur, oh, gloire à Dieu. Romains 10, 14. Connaissez ce verset? Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Pas possible. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendre-t-il parler s'il n'y a personne qui prêche? Certains croient que c'est le travail du pasteur. Mais j'ai entendu des gens même dire, mais on vous paye pour faire ça. Personne ne m'a payé pour venir en France pour annoncer l'évangile. Je ne suis pas venu pour faire un job. Donc vous ne pouvez pas me payer pour annoncer l'évangile. Mais ce n'est pas mon travail. Le travail des serviteurs de Dieu, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, ce n'est pas de faire le travail. C'est de vous encourager, vous motiver, vous aider, vous inspirer pour que nous, l'Église, comprenez combien de personnes je peux contacter dans une semaine. Combien de personnes nous pouvons contacter dans une semaine. Vous comprenez? Nous sommes les prédicateurs de la bonne nouvelle. Vous êtes tous des prédicateurs. Et vous dites, mais moi, je ne veux pas être sur l'estrade. Moi, je ne veux pas aller derrière la chaire. Non, parce que ce n'est pas votre rôle. J'aime faire ça. Je suis à l'aise ici. Mais vous êtes encore plus à l'aise dans un bus, ou dans le train, ou dans le marché, de tourner vers quelqu'un et de leur parler et de leur bénir. Amen. De leur annoncer, quand ils sont en train de parler de leurs mœurs, vous parlez de la bénédiction de Dieu. Quand ils parlent de leur maladie, vous dites, est-ce que je peux prier pour vous? Et nous annonçons Jésus qui guérit, Jésus qui délivre, Jésus qui sauve. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Matthieu 9, 35. Quelle est votre attitude envers les pas encore chrétiens? Quelle est votre attitude envers les... Je marchais autrefois avec Dieu. Matthieu 9, dernier verset qu'on va regarder, 35. Jésus parcourait toutes les villes, tous les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et après il nous dit quelque chose. Il dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Je trouve que ça, c'est... Comment prier une prière plus efficace que de prier quelque chose qui est marqué dans la parole de Dieu? Jésus dit, voilà ce que tu pries. Tu vois une multitude des gens. Et peut-être tu as une affinité pour quelques-uns et tu parles avec quelques-uns, mais d'autres, vous n'avez pas d'affinité. Et ça, le Suisse dirait, ça ne joue pas. Tu n'arrives pas à parler avec... Priez le maître de la moisson qui l'envoie. Et ma famille qui est loin... Ou peut-être ma famille qui est proche, mais j'ai pas un très bon contact à ce moment-là. On prie pour le Seigneur, on voit des ouvriers. Amen. Et après on dit, j'aime beaucoup quelqu'un a dit ça hier, oui. Et Seigneur, fais de moi la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Peut-être leur famille habite à côté de moi. Amen. Peut-être ils sont en train d'évangéliser ma famille, en train de leur annoncer Jésus, mais peut-être leur famille habite dans le même bâtiment que moi. Seigneur, que je suis la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Excellent livre qui s'appelle « Comment gagner vos bien-aimés à Christ ?» Petite image là, oui. Petit mini-livre explique exactement comment prier pour les gens qu'on aime, pour les voir gagner pour Christ. Si vous n'avez pas ce livre, ce sera vraiment une bénédiction pour vous. Donc, je vais terminer comme j'ai terminé chaque fois qu'on a regardé ce sujet. Je dis, vivons passionnément pour Dieu et permettons les autres de voir l'amour de Jésus dans notre vie. Comment? Comment vivre? Par notre attitude. Si vous avez eu une mauvaise attitude envers les gens qui sont pas chrétiens, changez cette attitude aujourd'hui. Commence à aimer ces gens. Et envers ceux qui étaient autrefois chrétiens. Peut-être vous avez eu cette attitude, ouais, de grand frère, du frère aîné. Non, on va changer ça. On veut qu'ils reviennent. On va les accueillir. On va les aimer. Amen. On va se réjouir. Comment est-ce qu'on va vivre passionnément? Par nos paroles. Amen. Parlons bien des autres. C'est tellement facile. Nous sommes dans un monde qui est tellement négatif que c'est facile de parler mal des gens. J'entends les gens dire, les gens ne veulent pas entendre parler de Jésus. Vraiment? Mais c'est ce que vous dites tout le temps. Comment est-ce que vous pensez que vous aurez une bonne occasion de parler avec les gens? Moi, je pense que c'est beaucoup mieux de dire, de déclarer, appeler les choses qui ne sont point comme s'ils étaient. Commence à dire, tous les gens dans mon immeuble veulent entendre parler de Dieu. Commence à le dire. Oui, mais c'est pas la vérité. Vous êtes en train d'appeler cette vérité. Vous êtes en train de changer, ouais, la vérité dans votre immeuble. Commence à dire, mais ma famille a soif de Dieu. Parce qu'on a dit toutes sortes d'autres choses sur nos familles. Amen. Troisième chose, par nos actes. Par nos actes. Quelle est notre réaction? Les gens se fâchent avec nous, quelle est notre réaction? Comment est-ce que vous êtes en train de bénir les gens qui vivent autour de vous? Amen. On veut qu'ils viennent? Est-ce qu'ils connaissent notre gentillesse? Est-ce qu'ils connaissent qu'on prie pour eux? Vous savez, quelquefois, c'est seulement dire, vous savez, je prie pour vous. On voit un voisin qui passe par un moment difficile, un membre de la famille. Vous savez, vous pouvez écrire un petit mot. On dit, nous prions pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. On sait que vous passez par un moment difficile où on peut leur apporter quelque chose. Laura a fait beaucoup d'évangélisation par gâteau. Dans notre immeuble, elle faisait les gâteaux. Elle dit, je ne veux pas manger tout le gâteau. Donc, elle allait se présenter à la porte. Elle dit, est-ce que vous avez un morceau de gâteau? Ce n'est pas français, n'est-ce pas? Mais qui est français ici? On est chrétien. Amen. Quelquefois, on permet notre culture de nous bloquer au lieu de faire, mais j'ai eu cette idée, mais j'osais pas. Ose. Osez. Amen. C'est bon? Hallelujah. Gloire à Dieu. J'aime pas terminer une célébration sans vous donner l'occasion de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Je connais plus, je pense presque tout le monde ici. Mais il se peut que vous n'avez pas encore invité Jésus d'entrer dans votre vie. Est-ce qu'on peut tous se présenter aux noces de Jésus? Est-ce qu'on va être invité? Oui, nous sommes tous invités. Est-ce qu'on va entrer? Assurons-nous que nous sommes habillés avec Christ. Amen. Si aujourd'hui vous n'avez pas fait de Jésus le Seigneur de votre vie, ou si vous êtes en train de revenir, bienvenue à la maison. Amen. Vous êtes bienvenus ici. Est-ce qu'on voulait vous lever? On va faire une déclaration de foi. Paul a dit, si tu crois, ouais, que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et que tu confesses qu'il est le Seigneur de votre vie, vous serez sauvés. Et c'est pourquoi je vous donne cette occasion de déclarer ces choses. Oui, vous pouvez répéter après moi. Dis, je crois que Jésus est mort à ma place. Je crois qu'il a payé pour mes péchés. Je crois qu'il est ressuscité le troisième jour. Et je fais de Jésus mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je suis maintenant enfant de Dieu et j'ai la vie éternelle. C'est aussi simple que ça pour devenir chrétien. Hallelujah. Ma prière, c'est que chacun de vous va pouvoir prier avec quelqu'un d'inviter Jésus dans leur vie et que vous allez comprendre. Ouais. Moi, j'étais à la naissance de nos deux enfants. C'était vraiment quelque chose de formidable. À l'époque, donc il y a 26 ans, 24 ans, c'était pas courant. Tous les papas ne faisaient pas. Ouais. À l'époque de mon père, ouais, on ne faisait pas de tout. Ouais. Les hommes étaient mis dehors même. Ouais. J'ai eu la joie de voir mes enfants naître. Ouais. J'aimais ma femme encore plus. Ouais. Après avoir vécu ça avec elle, c'était quelque chose de magnifique. Mais je dis, chaque fois que j'ai eu la joie de prier avec quelqu'un, d'inviter Jésus dans leur vie, c'était quelque part pareil. C'est le commencement d'une nouvelle vie. Et je savais que notre fils, notre fille était déjà vivant bien, ouais, pendant 9 mois dans le ventre de leur maman. Ouais. mais ils sont sortis, ils sont respirés pour la première fois, et que c'est magnifique de prier avec quelqu'un pour accepter Jésus dans leur vie ou pour revenir au Seigneur, et cette personne respire à nouveau en tant que nouvelle création. Amen. Hallelujah.